La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre Sauveur. Bienvenue à vous tous dans ce lieu de prière. Merci à Sarah Kim qui nous accompagne ce matin pour ces magnifiques trompettes de John Stanley. Nous avons la chance ce matin d'être ici rassemblés dans la communion fraternelle. Et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous regardent sur Internet et qui seront avec nous dans les jours qui viennent en voyant ce culte à distance. Nous sommes rassemblés ce matin dans ce temps de culte pour prier, nous remettre sous le regard du Seigneur dans la paix de ce dimanche. Je vous invite à louer le Seigneur. Seigneur, tu es vie, tu nous donnes et nous conserves la vie, nous te louons. Seigneur, tu es lumière, tu nous éclaires et nous réjouis par ta lumière, nous te louons. Seigneur, tu es joie, tu nous donnes de partager ta joie, nous te louons. Seigneur, tu es espoir, tu traces et prépares nos sentiers, nous te louons. Seigneur, tu es amour, tu nous permets de vivre dans l'amour, pour cela aussi nous te louons. Et je vous invite à poursuivre notre louange avec, dans le psautier français, vous allez trouver le psaume 36, les strophes 1, 2 et 3. Je vous invite à vous asseoir. Dans le prophète Ésaïe, il est écrit ceci. Voici le jeûne auquel je prends plaisir, dit le Seigneur. Brise les chaînes injustes, dénoue les liens de tous les joues, renvoie libres tous ceux qu'on opprime, mets fin à toute servitude, partage ton pain avec celui qui a faim, recueille dans ta maison les malheureux sans asile, couvre ceux qui ont froid, et ne te détourne pas de ceux qui sont ta propre chair. Alors ta lumière se lèvera comme l'aurore. Tu appelleras et le Seigneur répondra. Tu crieras et il répondra, me voici. Que ces paroles nous donnent au cœur l'assurance que le Seigneur nous guide dans nos œuvres, dans nos actions auprès de notre prochain. Et nous nous plaçons sous le regard du Seigneur. Avec confiance, nous pouvons lui dire ce qui nous sépare de lui trop souvent. De notre indifférence et de notre ingratitude à ton égard, comme de tout oubli de tes commandements, délivre-nous, Seigneur. De toute forme d'égoïsme et de tout manque de générosité envers notre prochain, comme de toute mauvaise humeur, délivre-nous, Seigneur. De toute lâcheté, de toute paresse dans nos communautés, comme de toute négligence dans notre travail, délivre-nous, Seigneur. De toute vanité, de tout orgueil de soi-même, comme de tout découragement, délivre-nous, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous. Amen. Et le Seigneur redit sans cesse sa grâce à l'homme qui se tourne vers lui. Il est là tout amour, amour infini pour les hommes. Et à travers les paroles de ce prophète, Ésaïe, nous entendons cette alliance qui ne s'arrête jamais. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur, et je te garde ma miséricorde. Soyons assurés de la grâce de Dieu dans nos vies. Et nous chantons ensemble. Je vous invite à vous lever pour confesser ensemble notre foi. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie et salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire, comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint, qui demeure dans notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu, qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois à l'Église du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les hommes sont liés à Jésus-Christ. Je crois que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Et nous chantons. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir. Avant de lire les Écritures, nous prions ensemble. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous révéler ton amour. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Ouvre par ton Saint-Esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité. Au nom de notre frère Jésus-Christ. Amen. Dans l'évangile de Marc, nous pouvons lire au chapitre 3, Jésus revient à la maison et la foule se rassemble encore. Il ne pouvait pas même manger. À cette nouvelle, les gens de sa parenté sortirent pour se saisir de lui car ils disaient, il a perdu la raison. Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient, il a Belzéboul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Il les appela et se mit à leur dire en parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut tenir. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut tenir. Si donc le Satan se dresse contre lui-même, il est divisé et il ne peut tenir, et c'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord lié cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux fils des hommes. Péché et blasphème autant qu'ils en auront proféré. Mais quiconque blasphème contre l'Esprit Saint, n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'est qu'il disait, il a un esprit impur. Sa mère et ses frères arrivent. Se tenant dehors, ils le firent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et ils te cherchent. » Il répond « Ma mère et mes frères, qui est-ce ? » Puis promenant ses regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Jésus aurait-il perdu la raison? C'est en tout cas ce que pensent les gens de sa maison, ceux de chez lui. Mais de quelle maison parle-t-on au juste? Au début, Jésus revient à la maison, comme il est écrit dans les traductions. On imagine que c'est la maison de Capharnaüm, là où Jésus a ses habitudes. Mais en fait, le texte grec ne dit pas de quelle maison il s'agit, puisqu'il est écrit « il vient dans une maison ». Ce qui compte ici, c'est que Jésus entre dans une maison pour parler en parabole d'une maison particulière, celle de l'homme fort, ou plus précisément, celle du fort, car il n'y a pas dans le texte grec d'homme fort, mais seulement un fort. Comme souvent dans les évangiles, les gestes de Jésus disent autant que ses discours. Il entre dans une maison après avoir guéri beaucoup de malades, après être allé dans la montagne pour y appeler à sa suite ceux qui veulent suivre sa voie, et pour y choisir les 12, et les envoyer prêcher la parole de Dieu et chasser les démons. Jésus semble ne plus tenir en place, et tous ses déplacements, accompagnés de cette foule qui ne le quitte plus, produisent un effet de crainte chez ceux qui le connaissent, mais aussi chez les scribes qui viennent entendre ce nouvel interprète des textes et de la tradition. Les aveugles, les boiteux, les sourds, les muets, tout ce peuple qui cherche un salut à court pour être guéri par Jésus. Démons, esprits impurs et autres forces maléfiques sont tenus pour responsables du malheur qui les touche. Car on ne sait pas comment soigner, comment soulager, comment guérir. Mais Jésus chasse ce mal qui les accable. On ne dit pas comment. Ne serait-il pas en train d'accomplir les promesses du prophète Ésaïe ? Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Par quelle force Jésus rétablit-il tous ces gens dans leur identité d'hommes et de femmes dignes ? Dignes de quoi ? Dignes qu'on s'arrête sur leur sort, qu'on entende leurs plaintes, ne serait-ce que cela. Dignes d'être réhabilités dans la société des vivants et dans celle des enfants de Dieu. Eux qui portent un handicap comme on porte une étiquette. Eux qui portent ce handicap comme s'ils étaient damnés par Dieu. Jésus aurait-il perdu la raison? L'accélération de ses actes et de ses déplacements le présente comme frénétique. Il est dans une urgence. Le salut de Dieu s'accomplit ici et maintenant, et étrangement, la seule réponse de ceux qui le connaissent est une mesure de rétorsion. À cette nouvelle, les gens de sa parenté sortirent pour se saisir de lui, car il disait « il a perdu la raison ». Le texte grec dit « ceux de chez lui », ceux de sa maison, sa maisonnée, ceux qui le connaissent depuis longtemps, sont persuadés que Jésus a perdu la tête. Mais Jésus n'est plus de la même maison. Il est d'une autre parenté. Il s'origine ailleurs, s'identifie à d'autres que ceux qui l'ont vu grandir. Sa maison est ailleurs. C'est celle du fort. Celle où il faudra venir le déloger si on veut vraiment qu'il arrête. L'image de la maison est d'une richesse sans bornes dans la littérature, la poésie, la philosophie, la psychanalyse. Qu'on parle d'architecture, d'anatomie ou d'astrologie, la maison est ce lieu structurant, stabilisant de l'existence. Gaston Bachelard, dans La poétique de l'espace, dit de la maison « La maison est notre coin du monde. Elle est, on l'a souvent dit, notre premier univers. Elle est vraiment un cosmos. Il y a la maison de famille, la maison idéale dont on peut rêver, la maison de vacances qu'on retrouve chaque année. Il y a les maisons du thème astral. Même les astres ont une maison et déménagent selon la période de l'année. Mais la maison n'est pas construite seulement de briques, de terre ou de pierre. Elle est faite de souvenirs, de sentiments et de sensations. Et il est souvent difficile de dire pourquoi une maison pourrait être la vôtre ou pourquoi elle vous refuse, tout simplement. Tant le corps tout entier y est mobilisé quand on y entre. La maison est une enveloppe, dit Patrick Abraham, le psychanalyste. Elle protège, elle permet les échanges. Nous pouvons choisir qui y pénètre. Et les cambriolages sont comme des viols. Et dans nos rêves, elle représente souvent le corps. Sans doute, Jésus n'avait-il pas attendu que Freud théorise le symbole de la maison pour utiliser cette image dans ses paraboles? Quand Jésus raconte à cette foule qui le suit la parabole de la maison du fort, c'est de lui dont il parle sans doute. On veut le lier, on l'accuse d'être démoniaque et de rétablir tous ces gens souffrants grâce à des forces du mal. Et lui se sent au contraire plus fort que jamais contre le mal. Il chasse le mal des maisons qu'il hantait. Il chasse la souffrance des corps qui souffrent. Il rétablit la cohérence dans des corps qui étaient morcelés, voyant mais n'entendant pas, ayant des yeux mais ne voyant pas, ayant des jambes mais ne pouvant danser, ayant des oreilles mais ne pouvant entendre. Cette dislocation du corps, Jésus la repousse et rétablit l'homme dans son intégrité physique, mais aussi dans sa façon d'habiter son corps. Les fenêtres murées retrouvent la lumière et les portes ont retrouvé les clés pour les ouvrir. Les infirmes des haïs retrouvent une maison habitable. Ils deviennent indélogeables, puisqu'ils sont enfin chez eux. Chaque maison, comme chaque être humain, a son âme, son équilibre, son agencement et sa logique interne. Et très vite, chaque maison a ses souvenirs et ses habitudes, cette logique interne qui fait que l'espace est dévolu à certaines tâches et pas à d'autres, selon ceux qui les habitent. On ne fait pas la cuisine dans la salle de bain, ou alors c'est vraiment très rare. Même si on peut parfois manger dans le salon, mais on n'y mangera pas la même chose forcément que dans la salle à manger. Une maison a ses flux. La circulation s'y fait d'une certaine façon, comme le décrit Marcel Proust avec ses grands couloirs. Couloirs revenant sur leurs pas, dont on croise à tout moment les allées et venues sans but. On traverse les pièces à certains moments de la journée et pas à d'autres. Une maison a son rythme, sa respiration, son horloge biologique, pourrait-on dire. On y ferme les rideaux quand les paupières sont lourdes, on y entend du bruit, puis des silences, selon les moments de la journée ou de la nuit. La maison a ses pudeurs aussi. On y accueille dans telle pièce, mais pas dans telle autre. On y a ses coins sacrés, où seuls quelques-uns peuvent entrer, et où les autres doivent attendre d'y être invités exceptionnellement. La chambre des parents n'est pas ouverte aux enfants dans toutes les familles. La maison, tout comme le corps, a son intimité, sa coquetterie ou son austérité. La maison est une image du corps, cette représentation toute personnelle que nous avons de notre corps en fonction de notre histoire. Nos désirs connus et inconnus, l'inconscient de notre être. Les enfants le savent qui en dessinent la porte telle une bouche et les yeux comme des fenêtres. On accuse Jésus de se servir de Satan pour chasser Satan des corps de ses contemporains. Autant l'accuser de se servir de la pagaille pour remettre de l'ordre. Comme lorsqu'on range un bureau et que son utilisateur habituel n'y retrouve plus rien. Comme si Jésus était un corps étranger qui agit dans le corps des sourds, des muets et des aveugles sans leur consentement. Jésus dérange. Mais ce ne sont pas les vies des boiteux qu'il dérange. C'est l'ordre établi de tous ceux qui disent la norme, ceux qui veulent lier l'homme fort. Mais Jésus se défend. Il n'est pas possible qu'il soit diabolique dans sa démarche, car s'il l'était, il s'anéantirait lui-même. Si un royaume était divisé contre lui-même, il ne pourrait subsister. On dit souvent à propos du pouvoir « diviser pour régner », mais la division seule ne construit rien. Elle ne crée pas des hommes forts, capables de résister. Elle crée des hommes liés, des esclaves, des prisonniers. Une force de destruction ne construit rien. Il faut toujours reconstruire derrière toute guerre, si l'on veut la vie. Jésus, lui, restaure, reconstruit, rebâtit. Il ne peut être du diable, de celui qui divise le jugement, la conscience ou l'âme. Il ne vient pas en intrus violer les consciences ou corrompre les corps. Il est aux côtés de l'homme qui veut expulser la division de chez lui. Il est avec lui dans ce combat, car il est avec Dieu. Ce Dieu qui aime ses enfants, qui est capable de tout pardonner au Fils des hommes, tous les péchés, tous les blasphèmes, tous, sauf un, le péché contre l'Esprit Saint. Imaginez que Jésus est fou ou démoniaque, c'est imaginer que l'Esprit qui l'anime est mauvais. C'est refuser tout bonnement l'œuvre de Dieu. C'est préférer le mal établi plutôt que le bien qui bouscule. C'est pousser l'autre à se renier lui-même et ne pas le reconnaître dans sa vocation. Qui est juge de la foi de Jésus ? Jésus est cet homme fort qui connaît sa maison, qui la possède, qui l'habite. Il est à sa place dans cette vocation reçue de Dieu. Il agit selon la cohérence que lui dicte sa foi et ne fait rien contre sa conscience. Il est fort de cette harmonie intime que personne ne peut juger sinon Dieu seul. En s'attaquant à sa foi, en voulant l'empêcher de faire le bien qu'il fait, les gens de chez lui, comme l'Évangile les appelle, les gens de sa parenté, mais aussi les scribes, les gens de sa religion, veulent conserver une réputation, une tradition, et surtout une certaine image de leur maison, dans laquelle ils pourront continuer à dire « Nous sommes chez nous, entre nous, et rien ne change ». Quand bien même il faudrait éviter le salut, dire le contraire de la parole de Dieu, tous ces gens établis préfèrent la sécurité d'une forteresse plutôt que la maison accueillante ouverte aux quatre vents. Ils préfèrent ne pas accueillir le Christ plutôt que d'avoir à subir les changements qu'il opère. C'est cette attitude que l'Évangile de Marc condamne et appelle le péché contre l'Esprit Saint. Ce n'est pas tant l'insulte qui est faite à Jésus en le traitant de fou qui indigne, mais c'est plutôt le reniement de la parole de Dieu qu'elle suppose. Comment l'homme qui sauve, qui guérit, qui réhabilite pourrait-il être condamné sans que le Dieu qui l'inspire ne soit condamné avec lui ? Combien sont-ils ? Ceux qui font advenir le règne de Dieu sur cette terre et qu'on empêche, qu'on insulte et qu'on tue parfois, au nom d'un pouvoir politique, au nom d'une tradition, au nom d'une religion. Comment les reconnaître? Comment savoir ce qu'ils font est bon pour l'homme, si ce n'est en voyant les hommes plus heureux grâce à eux. Les précurseurs sont souvent seuls et incompris. Ils mènent leur combat avec cette étonnante cohérence. La maison du fort, c'est la conscience de l'homme qui agit pour le bien en toute honnêteté. Cette maison n'est malheureusement pas imprenable. On peut museler le juste, le lier et le neutraliser pour prendre ses biens et les mettre au service de causes injustes. N'a-t-on pas fait cela avec la voie qu'a ouverte Jésus? N'a-t-on pas tué, torturé, corrompu au nom de la parole de Dieu et même au nom du Christ? Jésus semble se douter qu'un jour il sera lié, comme ce fort qui ne peut résister à ses agresseurs. Mais en attendant, il annonce une conversion selon laquelle sa famille, sa maisonnée, ceux qui habitent la même maison intérieure que lui, ne sont plus reliés à lui par le sang, la culture ou l'histoire, mais par la même foi en un Dieu qui sauve réellement. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Comme s'il retournait la maison sur elle-même, comme si les murs intérieurs se trouvaient dehors, comme si sa conscience se retournait sur elle-même, Jésus offre au monde ce qu'il a en lui. Il opère la conversion que produit la foi, cette métanoïa en grec, ce retournement sur soi-même qui ouvre à l'infini ce qui était confiné au moi. La maison de Jésus est alors partout et nulle part. Elle est cosmique, elle est infinie, car elle est devenue la maison de Dieu. Dieu habite en lui. Il faut donc qu'elle soit très grande. L'œuvre humaine, alors, s'élève à l'universel. Il n'y a plus ceux de ma parenté, ceux de ma maison. Il n'y a plus la maison natale qui vous porte comme les ventres portent les enfants. Il y a la multitude, la création tout entière qui attend un salut. Jésus abrite désormais l'infini de Dieu. Il est devenu infiniment accueillant à tout homme qui cherche un refuge, et il ne s'occupe pas de savoir si c'est convenable ou non. Non, Jésus n'a pas perdu l'esprit, il l'a reçu. Et avec lui, il a reçu une parenté de foi. Lui, le fils du charpentier, l'enfant de Nazareth, est devenu ce prêcheur itinérant, ce sans domicile fixe de la foi, qui habite désormais là où on l'accueille, là où on accueille l'Esprit de Dieu. Cet Esprit qui nous exhorte à faire la volonté de Dieu, cet Esprit qui, contrairement aux esprits impurs dont parle la Bible si souvent pour décrire le mal qui taraude les humains, ne possède pas les hommes, mais les libère pour leur donner la vie. N'est-ce pas notre projet à tous de convertir nos vies confinées dans la maison du moi à une vie capable d'accueillir le monde entier dans le même amour que celui de Dieu? Alors où est la maison du Sauveur pour nous? Elle est en nous si nous y accueillons l'Esprit de Dieu pour qu'il nous convertisse à son amour infini. Amen. Voilà, aujourd'hui, quelques annonces très rapides. Mercredi midi, nous nous retrouverons au temple, ici même, pour une pause spirituelle qui est proposée tout l'été, le midi à midi et demi, ici. Et nous avons un moment d'échange autour d'un texte biblique. Et cette année, nous avons choisi comme thème un thème qui nous semblait venir après tout ce que nous avons vécu les uns et les autres, se relever des fléaux. Et donc vous êtes les bienvenus à midi et demi et nous terminons à 13h30. Donc pour ceux qui travaillent, vous pouvez vite vous éclipser et retourner à votre travail. Dimanche prochain, je serai de nouveau avec vous pour vous offrir la prédication. Et c'est maintenant le moment de l'offrande, donnée avec beaucoup de générosité à une église qui a évidemment subi le confinement de ces derniers mois. Merci à vous. Voilà, et comme je ne sais plus où j'habite, j'avais oublié le cantique qui est après la prédication. Et donc je vous invite à le chanter maintenant, si Sarah, tu veux bien accompagner le psaume 84. Et ce sera donc dans le psautier français aussi. Le psaume 84, dans ta maison, je suis heureux. Je vous invite à vous lever pour chanter.
Je cherche ta présence.
Je vous invite à vous asseoir. Nous prions ensemble. Dieu d'amour, tu nous as appelés à l'unité pour que nous vivions cette unité dans l'harmonie. Et pourtant, nous sommes divisés entre religions, entre les riches et les pauvres. Brise les barrières que nous avons élevées entre nous. Délivre-nous de l'orgueil et de l'égoïsme. Par la puissance de ton nom, Seigneur. Donne-nous la guérison qui vient de toi. Seigneur, nous te présentons notre monde et nous te présentons notre façon de l'habiter. Donne-nous, Seigneur, la possibilité de respecter davantage le monde que nous habitons. Fais de nous des habitants scrupuleux, attentifs, respectueux de tout ce qui nous entoure, pour que nous puissions laisser cette maison à ceux qui viennent après nous dans un état vivable. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui n'ont pas de maison, tous ceux qu'il a fallu loger pendant ce temps de confinement parce qu'ils étaient inconfinables. Bénis-les, Seigneur, et aide-nous à les aider. Donne-nous, Seigneur, le souci de ceux qui n'ont que leur corps comme maison. Nous te remettons cette pauvreté qui nous entoure et nous te demandons ton aide pour être fort contre elle. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voilà, ce temps de halte dans la maison du Seigneur se termine, mais le Seigneur est en vous. Il habite dans vos cœurs et vos consciences et il vous guide. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur, de toute grâce, vous bénit et vous garde. Amen. Je vous invite à vous asseoir et nous écoutons ce que nous propose Sarah.